Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à un grand moment de notre histoire, 1789, les États généraux ont-ils déclenché la Révolution française ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les députés du tiers-État, sûrs de leur force, en arrivent le 17 juin 1789 à se proclamer Assemblée nationale, un premier acte révolutionnaire qui amène Louis XVI à réagir.
Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi.
On nous empêche d'entrer, ordre du roi.
C'est un outrage !
Le matin du 20 juin 1789 à Versailles, quand les députés se rendent à l'hôtel des menus plaisirs, où depuis plus d'un mois se tiennent les états généraux, à leur grande surprise, ils tombent sur porte close. Que se passe-t-il ? La veille, Louis XVI, en apprenant que le tiers-État et une partie du clergé se sont déclarés Assemblée nationale, a ordonné la fermeture de la salle. Comment ? Le roi, que les députés portent toujours dans leur cœur, aurait-il été dupé par la noblesse ? Les députés, redoutant une éventuelle dissolution de l'Assemblée, décident de se réunir ailleurs. Pourquoi pas dans la salle du Jeu de Paume, une sorte de gymnase située à proximité du château ? En chemin, une foule nombreuse les accompagne, leur lançant des baisers et des fleurs et les encourage à ne rien lâcher. C'est à leur arrivée dans la salle que ce 20 juin 1789, les députés, presque à l'unanimité, vont prêter le fameux serment du jeu de paume.
Bailli, à vous la parole ! Silence ! Silence ! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Un serment que les députés, toujours confiants dans leur souverain bien-aimé, terminent par un tonitruant « Vive le roi ». Ce moment historique sera immortalisé par un dessin du peintre David que l'on connaît bien, reproduit dans tous nos manuels d'histoire. Le serment du jeu de paume, qui marque une nouvelle escalade révolutionnaire, est éloquent, il est aussi courageux. Les députés, en effet, ont peur, car dans Versailles, court la rumeur qu'ils vont bientôt être arrêtés, rumeur qui semble confirmée par la présence de plus en plus massive de la troupe. Et lorsque le 23 juin, le représentant du roi viendra faire évacuer la salle du jeu de paume, le député Mirabeau prononcera sa phrase célèbre.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Partagés entre colère, peur et consternation, les députés comprennent que Louis XVI, prenant le parti de la noblesse, refuse l'existence d'une assemblée nationale qui mettrait en cause la société d'ordre. Le mouvement révolutionnaire, qui a débuté pendant ces états généraux, est-il sur le point de s'éteindre ? Pierre Cernat, pourquoi ce serment du jeu de paume est-il un événement historique, un moment de bascule ?
À mon avis, c'est un autre moment de la geste révolutionnaire. Ce moment de la geste révolutionnaire, d'abord, il révèle l'autonomie d'action et de pensée, désormais, des députés du tiers-État qui savent se constituer comme étant pleinement responsables de leurs actes politiques, se libérant des impératifs du roi et trouvant leur liberté collective. Et j'en veux pour preuve quelque chose sur lequel on passe un petit peu rapidement, généralement, mais qui pour moi est essentiel. On vient de sortir de la monarchie de droit divin. Pourquoi je dis cela ? Eh bien parce qu'on vient de rentrer dans, d'ailleurs, une mode qui va devenir funeste, parce qu'elle est impossible à tenir, mais elle est encore constitutive largement d'une modernité politique, qui est le serment politique. Prêter un serment politique, c'est faire entrer la vie politique dans la laïcité. Il n'y a plus de principe immanent dans la politique. La politique n'est pas garantie par la métaphysique du fait que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. C'est la laïcité du serment, on se prête serment entre hommes, ce sont des hommes, ils se regardent dans les yeux, ils se prêtent serment. Ça veut dire qu'on est sorti de la métaphysique pour entrer dans une vie pleinement laïque où ce qui fonde la solidité, la garantie du lien politique, c'est désormais la parole qu'on a donnée. C'est fondamental, tellement fondamental, que c'est le premier vote nominal de l'histoire d'une Assemblée nationale en France. Là, les archives nationales possèdent un document absolument remarquable et très émouvant, qui est la signature de tous les députés qui ont prêté serment et qui sont passés les uns derrière les autres pour montrer devant l'histoire qu'ils avaient signé en leur nom de nouveaux citoyens pour fonder ce collectif qui va rédiger la Constitution. L'acte révolutionnaire, il est dans ce serment. Et David, qui est un génie de la peinture politique, le comprend bien, dans l'obsession de ce tableau qu'il ne finira jamais.
Est-ce que les députés sont vraiment menacés d'arrestation à ce moment-là ?
Non seulement ils sont menacés d'arrestation, mais ils sont surtout brimés et humiliés. Ils arrivent devant une porte qui est fermée, on leur raconte un mensonge, il faut faire des travaux pour l'intervention du roi le surlendemain, c'est faux. Ils doivent se transporter sous la pluie, donc nouvelle humiliation, donc que représentera David par ses grandes tentures sous le vent de Versailles. Ils arrivent mouillés, crottés dans cette petite salle, peut-être
la salle de gym visitée.
Ils doivent déloger D'Artois qui fait exprès de jouer au jeu de pommes, l'ancêtre du tennis, pour pouvoir occuper cette petite salle que j'invite tout le monde à visiter. Ils sont serrés là-dedans et ils doivent bricoler leur autonomie et leur prise de pouvoir. Donc oui, ils redoutent en permanence donc les brimades, les humiliations et en fin de compte, leur possible arrestation.
Alors on a l'impression qu'en se déclarant Assemblée nationale, ces députés du tiers-État décident de s'affranchir du passé, de couper les câbles, comme disait Sieyès, mais en même temps c'est un peu un saut dans l'inconnu. Jusqu'à présent, ils avaient un amour et une confiance totale dans le roi. Maintenant, ils comprennent qu'il n'est plus vraiment avec eux.
Oui, et se remet en place le narratif que les populations d'Ancien Régime connaissent bien. Ce sont des hommes qui restent encore, des hommes formés par l'Ancien Régime, qui consiste à dire, lorsque le roi est mauvais, il est mal conseillé. Leur amour encore du roi est encore très très fort, mais désormais, ils ont décidé en fait de mettre entre parenthèses le roi. Ils le respectent, mais ils savent désormais qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, comme la suite des événements du 23 juin vont le démontrer.
Et justement, Pierre Cerna, en quoi cette date du 23 juin 1789 est-elle décisive ?
Lorsque le roi donne l'ordre personnellement aux députés de quitter la salle, il refuse. Mirabeau,
sa phrase fameuse,
la puissance des baïonnettes et surtout l'autorité légitime du peuple qui leur donne la possibilité de rester. Sieyès leur rappelle qu'ils doivent demeurer ce qu'ils ont été la veille, c'est-à-dire fidèles à leur serment. C'est une des obsessions des députés législateurs. Mais surtout, ce que l'on a passé sous silence, c'est que dès la fin du discours et le refus d'obéir au roi, les députés votent l'immunité parlementaire. Ça, c'est une entrée dans la modernité révolutionnaire qui est essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se sentent à ce point menacés que désormais, ils vont voter le fait que nulle force de police, nulle force armée n'a le droit de se saisir du corps d'un député en fonction ou de lui reprocher quoi que ce soit qu'il ait fait dans ses fonctions de député. Cette immunité parlementaire est essentielle pour comprendre désormais la force et la conscience que les députés ont de leur force collective. Désormais, donc, une révolution est en marche, car tout cela se passe sous les yeux de la France. Tout le monde en discute et Paris va rentrer en scène.
En conclusion, Pierre Cerna, est-ce qu'on peut dire que les États généraux ont déclenché la Révolution française ?
Non seulement ils ont déclenché la Révolution française, mais ils ont fait la Révolution politique. Restait à faire une révolution démocratique et sociale.
Merci beaucoup, Pierre Cerna. Pour en savoir plus, je renvoie à la lecture de votre livre, passionnant, richement illustré, « Que demande le peuple ? Les cahiers de doléances de 1789 », publié chez Textuel. À lire également, « Par la volonté du peuple, comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires » de Timothy Tackett, édité chez Albin Michel. Cette émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin et Anne-Cécile Perrin, à la technique Guillaume Roux. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Nous parlons encore d'une révolution, mais cette fois celle qui, en Iran, en 1979, a mis fin au régime du Shah. 1979, l'ayatollah Khomeini, en créant la République islamique, a-t-il volé la révolution iranienne ?